On commence par un petit jingle?
Vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs. Une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Un invité,
son témoignage,
son parcours,
son expérience,
des chroniques,
géopolitiques,
juridiques,
linguistiques.
Tous les hommes que tu as connus te disaient qu'ils ne voulaient plus donner les cartes prises comme dans un piège. C'est dur de retenir la main d'un homme qui cherche plus loin, qui veut atteindre le ciel pour se livrer. Et qui veut atteindre le ciel pour se livrer. Puis ramassant les cartes qui sont restées là sur la table, tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même sans rire. Comme tous les joueurs, il cherchait la carte qui est si délirante qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Un jour penché à ta fenêtre, il te dira qu'il veut renaître au monde que ta tendresse lui cache. Et sortant de son portefeuille un vieil horaire de train, il dit: je t'avais prévenu, je suis étranger. Je t'avais prévenu, je suis étranger. Maintenant un autre étranger semble vouloir que tu ignores ses rêves comme s'ils étaient le fardeau de quelqu'un d'autre. Tu as vu cet homme déjà donner les cartes avec son bras en or, mais maintenant tu vois sa main est figée. Oui, maintenant tu vois sa main est figée. Mais tu n'aimes pas regarder un autre homme fatigué déposer toutes ses cartes comme une défaite, tandis qu'il rêve jusqu'au sommet. Dans l'ombre tu vois comme une fumée une route qui monte derrière sa tête. Une route qui monte derrière sa tête. Tu lui dis d'entrer, de s'asseoir, mais en te retournant, tu vois que la porte de ta chambre reste ouverte. Et quand tu prends sa main, il dit: n'aie pas peur, ma tendre amie, ce n'est plus moi, oh mon amour étranger. Ce n'est plus moi, oh mon amour étranger. J'ai attendu toujours certain de te revoir entre les trains. Bientôt il va falloir en prendre un autre. Oh, je n'ai jamais eu, tu sais, pas le moindre plan secret. Ni personne peut me conduire. Et tu te demandes ce qu'il cherche à dire. Oui, tu te demandes ce qu'il veut dire. En bas au bord du fleuve, demain je t'attendrai si tu veux bien, là tout près du pont qu'ils construisent. Puis quitte le quai pour un wagon-lit, tu sais qu'il cherche un autre abri, qu'il n'avait jamais été un étranger. Qu'il n'avait jamais été un étranger. Et tu dis d'accord, le pont ou bien ailleurs, je viendrai. Puis ramassant les cartes qui sont restées là sur la table, tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même sans rire. Comme tous les joueurs, il cherchait la carte qui est si délirante qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre, qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Un jour penché à ta fenêtre, il te dira qu'il veut renaître au monde que ta tendresse lui cache. Et sortant de son portefeuille un vieil horaire de train, il dit: je t'avais prévenu, je suis étranger. 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 Je t'avais prévenu.
Et bonsoir, bonjour à tous, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. On est donc dans cette fabuleuse émission lancée il y a quelques mois. On est à l'épisode numéro 5 et on reçoit Franck. Alors Franck nous arrive d'ici, mais il est allé souvent vers ailleurs. Je présente un peu toute la tablée dans ce magnifique studio rénové récemment. Donc à la technique, on a Richard. Bonjour Richard.
Salut Julien.
Sarah qui nous fait le plaisir d'être là quasi à toutes les émissions et qui l'a souvent guidé.
Bonjour.
Et Franck.
Et bonjour, bonsoir pour ceux qui vont, les auditeurs qui vont regarder ça, on ne sait pas quand. Et écoutez plutôt.
Oui, oui, j'ai failli te reprendre. Mais si vous nous voyez, c'est que vous êtes très fort, ouais. Donc, comme je disais, Franck, tu nous arrives d'ici, mais t'es né dans le département de l'Eure.
Oui, à l'Eure, oui, je connais pas en fait. Hein. Je suis né dans une caravane, il paraît. Et du coup, c'est marrant parce que tu parles de l'Eure et il paraît que c'est en Normandie. Voilà, je suis né par là-bas.
Ok, et t'es arrivé en Drôme. Dans la foulée
Beaucoup plus tard, en passant par la Bretagne, et puis en passant par le Languedoc, et puis après la Drôme.
Tout ça sur avant tes 20 ans, quoi.
Ouais, exact.
Ok, donc par rapport à d'autres chemins, déjà un ici et un ailleurs, mais national, quoi, sur le territoire français.
National, oui, c'est... Voilà, c'est quand les parents qui bougent, en fait. On est obligé de les suivre. Et du coup, il n'y a pas le choix, quoi. Pour immigrer, changer de région, pour du boulot, pour des questions de santé aussi. Wally.
C'est peut-être un peu de l'ordre de l'intime, mais tu avais des frères et sœurs qui constituent un petit peu qui tu étais avant de ces grands voyages dont on va parler après.
Ah, j'ai une sœur qui est née à Nantes. Et c'est tout, enfin, on est deux.
Ok,
deux enfants, ouais.
Donc vous voyagez les deux enfants et vous suiviez selon les migrations sur le territoire français.
Voilà, des migrations, de quitter nos régions, ses amis. Ok, et là, c'est un traumatisme en fait. De changer de région, de changer d'école.
Tes premiers souvenirs,
de changer d'amis. Les premiers souvenirs de...
Globalement, hein, pas forcément précis, mais ton premier attachement comme ça, c'est plus où alors?
Attachement, c'est la Drôme.
C'est la Drôme, ok.
Ouais.
Donc on part vraiment d'ici, finalement, dans cette émission. Ok. Et dans la Drôme, c'est le bassin crétois?
Ouais, c'est le bassin crétois. On est arrivé... dans une vieille ferme, où il y avait l'eau du puits encore, il fallait chercher l'eau au puits. Et puis mon père avait trouvé du boulot dans le coin. Et puis moi j'étais dans une nouvelle école avec ma sœur. Et puis on s'est installé dans la Drôme. Mon père avait quelques contacts, surtout dans le milieu paysan, militant, de la Confédération paysanne, qui n'existait pas à l'époque encore. Mais du coup il est venu défendre les petits paysans ici dans la Drôme. Donc c'est son boulot qui a fait que des paysans du coin avaient besoin d'animateurs pour les défendre ou pour créer des réunions entre eux, quoi, pour résister au pouvoir des grands paysans qui s'accaparent beaucoup de terres. C'est pas juste. Alors du coup, ils essaient un petit peu de se rassembler.
Et comme moi j'ai une petite longueur d'avance peut-être sur ceux qui nous écoutent maintenant, je sais qu'on va beaucoup parler d'agriculture et d'autonomie alimentaire au fil de tes voyages. Donc du coup, en fait, j'avais pas réalisé, mais Donc arrivé dans la Drôme, dans l'enfance, ton père chez toi, c'est déjà la thématique finalement. Et alors du coup, c'était quelle échelle de... Tu dis qu'il fallait défendre les petits, mais c'était une échelle locale où vous défendiez les petits paysans sur une échelle plus large?
Oui, c'était local, ouais.
Ok.
Ouais, c'était départemental. Ouais, ils ont même créé l'association des fermiers drômois. Donc ça, moi, ça, grâce à ça, on a eu quelques amis. Enfin, on s'est senti un petit peu accueillis, quoi. C'est important, quoi, de se sentir accueilli comme ça, avec une, être en relation avec des familles qui ont existé depuis longtemps ici, qui existent encore, qui sont installées depuis longtemps et qui t'accueillent, quoi. Et du coup, ça donne du bonus, quoi. On n'était pas des étrangers complètement, quoi.
Il y avait le lien comme ça du combat, du militantisme.
Oui, à travers la terre, ouais.
Et à travers la terre.
À travers la terre. Et je pense que dans n'importe... Ouais, c'est, moi, je te raconterai plus tard, quand j'ai voyagé, mais c'est vrai que rencontrer les terriens, c'est important pour les connaître. Et ils aiment bien... Ben, ils ont plein de choses à nous donner, quoi.
Ben, ça va être un peu le fil conducteur, finalement, l'appartenance à la terre. Petit mot de la technique. Ah oui.
Est-ce que tu sens que ta formation, elle est dans ce que tu racontes là, l'association là, Paysan Drômois, ou est-ce que tu as fait d'autres choses en lien avec la terre en Drôme que tu peux peut-être nous raconter
Par rapport à la terre?
Oui.
Oui, je me suis installé comme paysan, j'ai fini par m'installer comme paysan.
Ah.
Et du coup, bah, c'était un privilège de pouvoir acquérir des terres et de pouvoir s'installer et les côtoyer, eux, quoi. Parce que c'est vrai, quand tu viens d'ailleurs, bon, le monde paysan, les gens qui sont ici depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans, à travers la terre, même entre eux, il y a des hiérarchies, tout ça, enfin bon, c'est... C'était heureusement qu'il y avait la Confédération paysanne pour nous accueillir aussi, quoi, parce que c'est un syndicat qui s'ouvre, qui était ouvert à des étrangers qui voulaient s'installer sur le territoire, quoi, par le biais de la terre.
Oui, c'est pas toujours forcément étant. Sarah, tu voulais dire un petit mot?
Non, en fait, je voulais te demander par rapport à ce que tu dis là, si avant d'arriver dans la Drôme, ton père était déjà dans l'agriculture ou ça a été nouveau aussi son activité en arrivant en Drôme?
Ouais, il était déjà en Bretagne, puisqu'il y avait, dans les années 70, le Larzac, tout ça, quoi. Et du coup, il y avait...
Qui n'est pas en Bretagne?
Ouais, à côté, ouais. Enfin, c'est déjà le Larzac.
Non, pas du
tout. Non, c'est le sud.
Ah ouais,
c'est l'Aveyron.
C'est l'Aveyron, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais.
Attends pour moi. On la garde.
Mais en fait, ils se sont tous rassemblés là-bas. Oui. Tous les syndicats de petits paysans, associations, etc. Ils se sont tous retrouvés dans l'Aveyron pour récupérer des terres au Larzac, quoi. Et du coup, mon père déjà travaillait en Bretagne avec eux, en tant qu'animateur syndicaliste à la FEDESEA locale.
D'accord, il était syndicaliste en fait.
Ouais, ouais.
Comment c'était son syndicat, tu dis, fédération?
Ça s'appelait, c'était la Fédération départementale des syndicats agricoles,
okay.
Ce qu'on appelle la FEDESEA actuellement,
okay,
le
okay.
Syndicat dominant. Et après, ils ont créé des associations départementales, associations de fermiers drômois ou de paysans travailleurs, avant que ce soit la Confédération paysanne. Donc après, il a arrêté de bosser pour le syndicat dominant, et il y a eu un changement de gouvernement, donc ils se sont autonomisés ils sont démarqués par rapport au syndicat dominant, quoi.
Donc en gros, il y a une espèce de perte du nombre d'agriculteurs, voire de paysans, et en fait, le combat qu'ont initié tes parents ou ton père, et toi a fortiori, c'est comme ça, c'est l'accès à la terre, c'est développer peut-être des pratiques... plus en accord du respect du vivant, des choses comme ça.
Ouais, c'est déjà de permettre à plus de personnes de pouvoir travailler la terre, de partager, quoi. Et, parce que les exploitations s'agrandissaient, et du coup, avant, on pouvait vivre sur 5 hectares, et puis après... les exploitations sont passées à combien, 100 hectares, 200 hectares, du coup ça exclut pas mal de gens vers la ville, tout ça, quoi.
Ouais, c'est un phénomène, je pense que les auditeurs maîtrisent un petit peu. J'aimerais bien revenir, il y a tout à l'heure, t'as fait une homonymie, Franck, t'as parlé des terriens, c'est ceux qui cultivent la terre, ouais. En préparant l'émission, on a aussi parlé d'un terrien, un habitant de la terre et pas forcément de la terre agricole. Et en ce sens, il nous a parlé d'un film dont on va passer un petit extrait qu'on va commenter après. C'est un film qui s'appelle Les ailes du désir et qui est sorti en 87.
Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Pour lui, tout avait une âme et toutes les âmes n'en faisaient qu'une. Lorsque l'enfant était enfant, il n'avait d'opinion sur rien. Il n'avait pas d'habitude. Souvent, il s'asseyait en tailleur, partait en courant. Il avait une mèche rebelle. Et une...
Ok, donc ça c'est le tout début, c'est la toute première séquence. C'est un poème qui est rédigé dans ce film de Wim Wenders de 87. Donc, il parle de l'enfance.
Les ailes du désir, ouais.
Et l'idée qu'on a travaillé un petit peu avec Franck avant cette émission, c'est un peu, je pense que ça va être récurrent en même temps qu'on va parler d'agriculture et comme ça d'humanité terrienne en parlant de comment on s'approprie son agriculture. Ça va être vraiment le thème à travers tes voyages. C'est aussi... le regard qu'on peut avoir étant enfant sur le monde autour de soi. Et je sais pas toi comment t'as vécu ce film là ou je sais pas si là t'as eu le temps de vraiment comprendre ce poème, je sais pas si tu t'en rappelais un petit peu, mais pourquoi ce film là t'a marqué autant? Alors
non, je m'en rappelais plus de ce poème, mais ça revient à l'enfance et au regard étranger qu'a l'enfant sur ce qui l'entoure, même par rapport à son corps et par rapport aux grands qui l'entourent. Et moi, j'avais l'impression d'être un étranger dans mon corps, mais aussi vis-à-vis des grands, des parents, des gens autour de moi. Du coup, bon, l'émission parle d'immigration, mais j'aime bien aussi utiliser le terme étranger, les étrangers, être étranger à soi-même et aussi dans son propre pays ou dans sa communauté. Je me rappelle de ce sentiment en tant qu'enfant, une forme de... comme si je venais d'un autre monde et que j'avais encore une vision de cet autre monde, et en naissant dans ce monde Terre là, ce qu'on appelle ici notre planète Terre, on pourrait lui donner un nom, elle n'a pas de nom là. Comment on pourrait
l'appeler? Il y en a qui lui donnent des noms, ouais. La Terre, c'est très objectif finalement.
Ouais, ouais. Il y en a qui l'appellent Gaïa, l'autre Lola, je sais pas, mais du coup cette vision ce restant d'un monde d'ailleurs. Et les ailes du désir, on voit un ange qui décide de vivre et qui tombe sur la terre. Et du coup, en tombant sur la terre, il y a les ailes qui lui tombent sur les épaules et elles ont pris du plomb, quoi. Ça lui fait mal, il commence à se toucher. Et il goûte cette matière rouge et il dit « c'est bon, ça fait mal, j'ai senti, je vis, j'ai senti quelque chose ». Et après, il va boire un café dans un petit boui-boui à côté, et puis il commence à boire son café, et il se brûle, et il se dit « Ah, ça fait mal, mais je suis vivant, et tout !» Mais bon, voilà, c'est ce rapport du film que je vous ai amené, par rapport, moi, à mon enfance, d'être aussi étranger, mais de souffrir aussi, d'incarner un corps, et puis de voir aussi cette étrangeté dans le rôle que jouent les gens qui sont autour de nous quand on est enfant, quand ils sont dans des rôles, qui s'enferment dans des rôles. Et moi, avec mon regard d'enfant, je me disais, mais c'est pas possible, ils jouent une comédie, mais c'est complètement à côté, enfin, c'est assez faux. Et à quel jeu ils jouent, c'est assez hypocrite. Nous, enfants, c'est vrai que ce regard-là, on ne l'entend pas souvent. Dans les médias ou à l'école, c'est un regard un peu neuf, quoi, sur les choses. Et c'est un regard qui... On parle de sachant, par exemple. Des gens qui ont des doctorats, plus de machin, mais l'enfant est sachant aussi, quoi. On oublie souvent de... Et voilà. J'avais à peu près 20 ans. Je voulais quitter mon pays, à la France. Je voulais émigrer ailleurs. Et du coup, parce que mon pays me satisfaisait pas, quoi. Enfin, j'avais envie d'un ailleurs, quoi. Rencontrer l'autre. Et donc, immigrer ailleurs, quoi. Je me sentais étranger dans mon pays, un peu. Et du coup, je suis parti avec un copain. Après, on s'est séparés sur la route, mais j'ai atterri au Burkina Faso. au Burkina Faso, où j'étais bien accueilli. Je me rappelle, dans une, en tant qu'étranger, comme ça, voyageant avec un sac à dos, tout simplement, et j'ai été accueilli par un blanc qui vivait déjà là-bas depuis 30 ans, et qui était en lien, il me dit, mais tu sais pas où dormir, coucher, bah tiens, j'ai une copine qui est prostituée, là, et elle travaille pas en ce moment, et vous pouvez vous entraider, va voir le clan là-bas des prostituées, et puis elles vont t'accueillir, elles t'auront une chambre, etc. Alors c'était assez loufoque comme expérience, mais c'est marrant parce que le métier de prostituée est assez aussi un métier d'étranger, comme on dit, c'est toujours une exclusion, elles vivent une... Tu vois,
sans être forcément venu d'ailleurs, quoi.
Ouais, voilà, même elles sont
marginalisées.
Elles sont ségrégationnées, je sais pas, c'est oui, un terme un peu fort, mais... Et du coup, moi, je me retrouve avec elles, mais c'était pas pour faire des bisous, hein, c'était en toute amitié, quoi. Ça, c'était... Il y avait rien de sexuel, etc. Et du coup, c'était... de pouvoir être accueilli comme ça, sans... Bon, heureusement que ce blanc vivant là avait donné le contact, hein. Mais voilà, quoi, c'était déjà une première rencontre merveilleuse, quoi.
Okay.
Avec ces femmes qui...
T'étais encore avec ton collègue de voyage ?
Non.
Okay.
Toi qui te sentais étranger en France et qui a voulu partir, tu t'es retrouvé en fait avec des gens qui étaient dans leur pays et qui se sentaient étrangers aussi parce que marginalisés.
Ouais. Ah, et qui voulaient aussi partir...
cette volonté de partir.
Ouais, de se marier avec un blanc et de venir ici.
Et toi, t'avais la vingtaine.
Ouais. Et du coup, bon, après, voilà, je suis allé dans l'intérieur du pays pour essayer de rencontrer les paysans. Bon, là, c'était j'avais pas le savoir-faire encore. Donc, mais je sentais quand même toujours un accueil assez pas jugeant, quoi. Au Burkina.
Après, et c'était en quelle année ?
Oh là, je peux pas dire, moi, les années. J'avais 20 ans, donc j'en ai 57. Maintenant, j'ai fait le...
C'est l'année, il y avait encore... c'était Sankara qui était au pouvoir ?
Ouais, c'était Sankara. J'étais le voir en meeting et tout.
Fin des années 70, début 80 peut-être ? Fin 70, je dirais.
Ouais, ben ouais, tu vois. Et du coup, bon, même peut-être plus récemment, peut-être, je sais pas.
Il y a 37 ans.
Ouais.
Et les gens que tu as rencontrés, justement, quand tu dis que tu as été voir Thomas Sankara en meeting, les gens que tu as rencontrés, les prostituées comme les autres personnes, paysans ou autres, ils étaient... ils appréciaient Sankara ?
Ouais, parce qu'il y avait des... Bon, c'était pas évident, il y avait quand même une milice avec des Kalachnikovs qui étaient là un peu comme gardiens de la paix, mais qui n'utilisaient pas leurs armes. Et mais ça faisait plaisir qu'il y ait de ce mouvement-là, que moi j'aurais bien aimé vivre aussi en France, qu'il y ait des gens qui ont, qui ont envie de... Voilà, les citoyens prennent le pouvoir, quoi. Parce que Sankara avait ce dynamisme-là.
Un défenseur des droits des plus précaires, entre autres.
Ouais, c'était un des premiers à vouloir... c'est le premier festival de cinéma... En Afrique, de l'Ouest, hein, ou peut-être d'ailleurs, mais en tout cas de l'Ouest, c'était Sankara qui l'avait créé en plein air à Ouagadougou. Et du coup, c'était marrant, on était tous en plein air en train de...
Ah, t'y étais, du coup ?
Ouais. Et puis, voilà. Après, j'ai pas eu trop de contact avec les paysans, parce que j'étais pas trop encore chaud pour aller plus loin. Je suis allé dans la brousse, mais bon, il s'est pas passé grand-chose. Mais après, voilà, je suis passé au Togo... Et c'est une autre affaire.
Est-ce que toi, tu as vécu déjà les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme, du coup, là-bas ?
Ouais, il y a des blancs. Je vais te raconter ça un peu plus tard. Bah, dans un autre pays, par exemple, au Niger. Et c'était... effectivement, les blancs, là-bas, on les appelle les coopérants. Donc, ils ont des super situations professionnelles. Des cadres supérieurs, et ils gagnent des centaines de milliers de francs, enfin de francs CFA, même d'euros, de plus que la moyenne des gens là-bas.
Ceux qui fabriquent les routes, ce genre de choses ?
Ceux qui fabriquent les routes, c'est des noirs. Hein.
Ah ok, non, mais je veux dire...
C'est des locaux, quoi.
Ouais, moi je parlais pas de ça.
Mais les néocolonialismes dont parle Richard, c'est vraiment ces blancs qui continuent à diriger des... pour l'État français à diriger et à commander, malgré que le Burkina soit indépendant ou le Niger indépendant, ou des blancs qui sont encore là, qui sont dans des niches dominantes, quoi.
Même au Burkina, même sous Sankara, parce qu'il avait quand même.
Moi, je l'ai plus senti au Niger, ouais. Au Niger, parce que je suis resté plus longtemps au Niger, donc j'ai eu le temps de me rendre compte de ça, ouais.
Combien de temps il est resté Sankara? Il n'est pas resté non plus très longtemps, hein.
Peut-être 2 ans, je crois qu'il a été assassiné.
Oui, avant d'être assassiné, oui.
Voilà, donc les gens qui étaient déjà en place en exerçant des postes à haute fonction sans être africains, ils ont pu se faire oublier 2 ans ou partir et revenir pas longtemps après, finalement. Est-ce que vous voulez écouter un son un peu maintenant ou on continue le voyage?
Un petit son, ouais.
Oui, avant de parler manière plus approfondie du Niger, on peut peut-être écouter une musique.
Ok,
ouais, en passant par le Togo, ouais.
En passant par le Togo. Ok.
On est de retour après ce petit son. Franck, c'était quoi ce son?
C'est un son qui. Alors, je peux pas te dire exactement. Je crois que c'est un. C'est Toumani, je ne sais pas s'il est...
C'est l'Afrique noire en tout cas, c'est l'Afrique,
ouais,
de, c'est l'Afrique
de l'Ouest. Et, je ne sais pas s'il est malien. Et il joue aussi avec des personnes comment dire, d'origine occidentale. Et c'est un des meilleurs joueurs de cet instrument au monde. Donc, c'est pour ça
c'est la kora.
Ouais, ouais.
C'est, le... c'est le, l'ancêtre de la harpe.
Ouais, ouais, ouais.
On l'a bien entendu là.
Ouais. Et ça, j'adore ça. C'est vraiment apaisant. Et c'est pour ça que je l'ai apporté aussi. Parce que c'est une des meilleures musiques que j'apprécie d'Afrique.
Quoi. Tu parlais surtout en français quand tu te baladais en Afrique il y a,
ouais, ouais, ouais,
37 ans.
Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Oui, oui, bah oui, parce que c'est une ancienne, c'est toutes des anciennes colonies françaises.
Donc les gens que tu as rencontrés qui étaient prostituées ou les gens qui étaient précaires, tout ça, ils parlaient français?
Oui, parce qu'à l'école, ils parlaient français.
Ok, ouais.
Parce que, à part, comme je disais à Sarah tout à l'heure, la Guinée-Conakry, où le président a dit merde à De Gaulle à un moment donné, et ont plus de relations avec la France, d'un point de vue néocolonialiste. Mais les autres sont restés un peu sous la tutelle du cartel français, quoi. Du pouvoir. Voilà. Du coup, c'était. C'était quoi la... J'ai répondu
à... ah, oui, ouais, complètement, complètement.
Oui, c'était par rapport à la musique. Ouais.
Je voulais juste savoir si vous parliez français, mais c'est bien ça.
Et puis, oui, oui, bah, oui, c'était agréable pour moi, parce que moi qui suis nul en langue, j'ai pas la mémoire, c'était bien facile.
Donc, après le Burkina, tu as été dans quel autre pays? Dans quel autre ailleurs?
Eh ben, le pays d'à côté, le Togo, qui était un pays avec un couvre-feu. D'ailleurs, j'avais jamais connu ça. En France, on a connu ça sous Sarkozy ou je ne sais plus qui, un couvre-feu, de ses premiers ministres. Mais là-bas, c'était couvre-feu total. On nous tirait dessus si on sortait après minuit, quoi. Déjà à l'époque.
Dans quel contexte togolais, du coup, tu te rappelles un peu?
La politique, à cette époque, je ne m'y intéressais pas trop, enfin, okay, localement. Mais jusqu'à maintenant, actuellement, il y a toujours eu des dictateurs là-bas, enfin, des personnes... comment dire, si dictateur, le mot est un peu fort pour certains, mais en tout cas, voilà, si des personnes manifestent, c'est bien pour quelque chose. S'il y a un couvre-feu, c'est qu'il y a quelque chose qui
fonctionne pas bien. Donc c'était politique, ouais. Ouais, et c'était pour empêcher l'opposition, on va dire, même si on connaît pas vraiment là, le détail. Ouais. Mais...
Oui, en fait, il y a eu deux coups d'État, si je me souviens bien, au Togo, dans les années 60, 60-70, en 63 et 67. Et c'était une dictature, en fait, qui est depuis ce moment-là partie unique. Et je crois que c'est dans les années 90 que c'était plus des partis uniques, mais de fait, ça y est toujours, quoi. C'est que dans les fêtes, c'est toujours, et c'est toujours le même. Enfin, aujourd'hui, c'est le fils.
Voilà, c'est le fils
de celui qui était, voilà, quand il était, quoi.
Voilà.
Donc, ok. C'est presque 40 ans après.
On peut dire que c'est une dictature.
Ouais. On continue le voyage?
Ah oui, s'il vous plaît.
Parce que c'est vrai que j'ai senti. Bon, je suis pas resté longtemps au Togo parce que j'ai senti cette pression. Sur les gens qui il y avait beaucoup de vols partout, de la débrouille, un peu de l'agressivité aussi puisqu'ils étaient sous tension, même vers le blanc, quoi. Enfin, on s'est fait agresser, j'étais avec une copine bretonne, on voyageait à deux à un moment donné, et du coup sur la plage pas loin de la capitale, c'est vrai que on s'est fait agresser, enfin elle surtout, et du coup sur la plage il y a un vieux Togolais qui est venu nous défendre avec un bâton pour faire fuir les jeunes délinquants, entre guillemets, qui harcelaient ma compagne, quoi, en fait, carrément, quoi. Donc c'était un peu une situation inattendue, quoi. Mais bon, heureusement, ces jeunes sont partis, quoi. Mais c'était juste pour nous taquiner, je pense, par rapport à... Bon, je sais pas ce qu'ils avaient en tête. Pas forcément de nous voler, mais peut-être parce que, voilà... ils avaient quelque chose à nous dire par cette violence-là, quoi.
C'est sûr.
Je vais ouvrir quelle porte et...
Ah bah moi, je suis le fil. On remonte un peu le temps. On te suit dans tes pérégrinations. Donc là, tu étais avec une amie à toi. Elle t'a suivi jusqu'au Niger après?
Non.
Okay.
Ça l'a un peu traumatisé. Donc du coup, on se demandait si elle continuait à... Mais bon, on s'était rencontrés juste ponctuellement. On continuait notre route chacun de son côté. Chacun avait à faire son chemin de découverte. Et bon, après, moi, j'ai continué au Bénin. Et au Bénin, c'est le Dahomey, c'est l'endroit où est né le vaudou. et chez les Haïtiens, tout ça, c'est vachement connu comme rituel. Mais c'est pas de la magie noire, en fait, c'est de la magie blanche, dans le sens où il y en a qui croient que le vaudou, c'est de la sorcellerie pour tuer, mais à la base, c'est vraiment pour faire du bien.
Donc... Ah bon ? C'est vrai que moi j'avais cette idée, j'en ai parlé il y a quelques jours, et je pensais vraiment que ça allait plus vers des sentiments négatifs. Mais alors, tu en sais plus ?
Ouais, parce qu'il y a un chercheur, alors je sais pas s'il est du Togo ou du Burkina, qui vit à Lyon et qui s'est penché là-dessus. Et donc j'ai lu un peu ses écrits et sur les pratiques vaudou, tout ça. Et mais c'est un peu comme aussi en Mélanésie. C'est-à-dire qu'il y a des sorciers qui... C'est comme chez nous ici, il y a des gens qui créent des rumeurs pour faire le mal, et des rumeurs pour alléger les souffrances. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y en a qui... Il y a toujours... Ici, on parle plus de magie, mais ici, on va parler de rumeurs. On va
pas casser si quelqu'un.
En politique, ça existe vachement, quoi.
Il n'y a pas si longtemps, en Drôme, il y avait des pratiques qu'on pourrait vaguement ou pas trop vaguement apparenter à la magie, ouais. On va pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est pas le sujet du jour, mais ouais. Ceux qui le savent ou ceux qui le savent pas, moi j'ai cru entendre ça plusieurs fois, ouais.
Ah ouais. Mais bon, à la base, voilà, c'est quelque chose pour soigner, pour ritualiser des choses, des rites de passage aussi. Et bon, après, il y en a qui utilisent ça pour créer de la souffrance, hein. Après, ça, c'est de leur responsabilité, quoi. Mais voilà, à la base, c'est...
Toi, tu avais une expérience comme ça. Alors, je pensais à l'agriculture, mais que ça soit du coup au Togo, tu n'es pas resté très longtemps. Mais là, on vient d'arriver au Bénin. Tu disais, sur ton premier voyage au Burkina Faso, tu n'étais pas encore prêt. C'est à quel moment que tu deviens à peu près? Et pour faire le lien avec peut-être le vaudou et les plantes aussi, il y a eu cette histoire-là où tu as commencé à rencontrer un petit peu des pratiques un peu comme ça de... Oui, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, oui. Tout est relatif, mais j'ai pas d'idée en tête précise, mais les mineurs, il y avait des enfants parce qu'ils étaient plus agiles, ils passaient, et ça, c'est la révolution industrielle. Je sais pas, 1820-50, il y a des enfants qui travaillent sans problème. Et après, au champ, jusqu'à maintenant, on peut exagérer en disant que aujourd'hui, c'est pas fou de travailler à 13 ans. Bon, certes, mais on est grand un peu, on choisit, et c'est la culture aussi, quoi. Oui, mais c'est pas les mêmes conditions, on n'est pas vendu.
Oui, voilà. Oui, moi j'ai commencé à travailler dans les champs à 14 ans, effectivement, pour payer ma mobilette, mon vélo, machin comme ça.
Notamment au Bénin, est-ce que tu as vécu des cérémonies en rapport avec la terre, quoi, des fêtes ou d'autres, hein?
Non, je suis passé au Bénin, j'ai traversé en train, en car, et... Je sais pas pourquoi je me suis pas arrêté. Enfin, à un moment donné, j'avais peur d'aller au Dahomey et tout ça. Enfin, je veux dire, il y a quand même un aura. Le Dahomey, c'est le fief des vaudous. C'est une région. Ça m'intéressait, mais j'étais pas trop branché là-dessus. J'avais lu des trucs là-dessus déjà. Ça m'impressionnait un peu. Et puis, je suis pas ethnologue. Donc, du coup, la seule chose, l'aventure qui m'est arrivée, c'était la première fois que j'ai vécu de ma vie le racisme. C'est que du Bénin pour aller au Niger, je monte dans un car, et dans le car, il n'y avait plus de place. Et déjà, on attendait depuis 2 jours le car, et du coup, il n'y avait plus de place. Personne ne voulait, j'étais le seul blanc dans ce car et tout, et je me dis, mais c'est bon, il n'y a plus de place, je vais rester debout et tout. Et ça a duré un certain temps. Et puis, mais je sentais quand même une sorte d'animosité, quoi. Enfin, moi, comme si une petite vengeance se créait contre le symbole de l'homme blanc et tout. C'est la première fois que je ressentais cette forme de racisme. Et inversé, quoi, parce que d'habitude, c'est moi, dans mon pays, je suis tranquille à ce niveau-là. Mais là, voilà, j'ai senti un truc, là. Et bon, ça m'a fait bizarre. Et du coup, il y a deux Maliens qui se sont levés et qui m'ont dit, tiens, assis-toi avec nous, entre nous, là, dans le car, sur la banquette à deux places. Donc, ils me font une place sur la banquette à deux places. Et c'est pas étonnant, parce que les Maliens, c'est des grands voyageurs. Ils ont l'habitude de... C'était un grand peuple à l'époque. Et du coup, ils ont l'habitude de voyager, de faire du commerce, d'aller chercher ceci. Pour eux, c'est pas un problème, quoi. Okay. C'est pas par hasard qu'ils m'aient demandé de m'inviter à m'asseoir avec eux, quoi.
Ça t'a sauvé la mise. Au lieu d'attendre 8 jours, t'as attendu que 2 jours.
Ouais, ils auraient pu me virer. Mais bon, c'était... voilà, moi, après, le racisme, j'ai ressenti ailleurs, après, en Mélanésie aussi.
Et quand est-ce que t'as commencé à creuser la thématique de la paysannerie et de l'autonomie alimentaire ailleurs, enfin, ailleurs qu'en France?
Alors, c'est vrai que là, comment dire... au début, moi, je voulais migrer, effectivement, je voulais plus vivre en France.
Ok.
Pour des raisons que mon pays, bah, je me sentais étranger en France. Je me suis dit, je vais aller voir ailleurs pour voir si des choses, des modes de vie me correspondent un peu plus. Et donc, bon, l'Afrique. Alors, au Niger, j'ai commencé à créer une amitié parce que c'était toujours difficile quand on n'est pas de la même peau, de le même pays, tu vois, de créer des amitiés à l'étranger ou des étrangers ici qui viennent chez nous. Les amitiés, c'est assez long à installer. Et du coup, moi, j'ai pu rester quelques mois au Niger parce que j'ai créé une amitié dans un autre quart d'ailleurs, avec un Béninois qui faisait des études au Niger et qui m'a dit qu'il m'a invité chez lui et qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait assez de place et qu'on pouvait vivre ensemble dans sa communauté. Parce que même lui était étranger, puisqu'il ne vivait pas au Bénin, il vivait au Niger. Donc il était déjà...
Il était déjà dans une situation d'étranger.
Voilà, quoi, tu vois.
Il n'était pas, ouais. Il n'était pas d'ici, il n'était pas du Niger.
Voilà. Puis en grande pauvreté, parce qu'on mangeait du riz 3 fois par jour, ou 2 fois par jour. Parce que moi, le truc, c'était aussi de me débrouiller sans argent, quoi. Enfin, j'en avais pas, pratiquement. Donc j'en avais plus, même à un moment. Donc du coup, j'étais au même niveau des pâquerettes, quoi. Fallait que je me débrouille comme eux. Mais lui faisait des études de médecin. Et c'est le premier africain à faire sa thèse sur le rêve. Je suis tombé sur ce Jérôme, ce monsieur béninois qui faisait des études de médecine au Niger, qui m'a accueilli bras ouverts. Mais c'est vrai que dans des quartiers, à Niamey, c'est une immense ville, hein, quand même. Je me suis jamais senti vraiment mal, quand même, tu vois, dans le sens où il y a quand même, en tant que blanc, j'ai pas senti vraiment de racisme quand j'étais au Niger. C'était vraiment agréable, hein. Dans des quartiers vraiment pas très assez pauvres, tu vois, mais je veux dire, bon. Et mais bon, on savait aussi que j'étais avec un tel. Mm-hmm. Tu vois, bon.
Oui, t'étais pas un touriste tout seul à te balader. Mm.
Et tu disais aux gens que tu voulais t'installer ailleurs que chez toi, ou comment tu te...
Ça leur apparaissait bizarre. Comment tu fais pour venir en avion, t'as l'argent et pourquoi tu viens, etc. Je dis non, là j'en ai plus. Maintenant je me débrouille. Et j'ai pas envie de faire l'armée, j'ai pas envie de... Donc j'ai pas... Moi, mon armée, c'est d'aller...
Ah, c'est l'époque où t'étais censé faire l'armée si t'étais en France?
Bah, c'est-à-dire que c'était un peu... voilà, je fais un peu un lien avec ça, c'est que... C'est vrai que ça serait super que tout le monde fasse un stage à l'étranger et se débrouille à un moment donné.
Mais t'avais une activité, Franck, pardon, je te coupe un peu. Quand t'es avec Jérôme et tout, t'as une activité dans la communauté?
J'arrive pas à trouver un boulot.
Ok.
Et lui, il demande aux coopérants, en rejoignant Richard tout à l'heure, parce que Richard, il parlait, mais il y a un néocolonialisme. Du coup, nous, on était un peu dans la mouise. Et du coup, on allait voir un bourgeois blanc, très sympathique, qui était ingénieur agronome, et qui nous donnait du riz pour manger. Donc c'était un peu le resto du cœur du coin, individuel, tu vois. Et du coup, on survivait comme ça. Et parce que les parents de...
Mais t'arrivais pas à trouver... Tu cherchais du travail.
Oui, mais il favorisait les locaux. Et moi, j'étais pas... J'avais pas
tu voulais leur piquer leur boulot? Non, pardon, mauvaise bête.
Pour rester dans le parler africain...
Voilà, je voulais leur piquer leur boulot.
On les appelle les bayaïs, non, c'est pas ça.
Ouais, on
c'est quoi les bayaïs, Richard?
Ben, c'est ceux qui ont rien.
Ok. Voilà. T'étais un bayaï.
Ouais.
Voilà. Avec Jérôme qui faisait ses études de médecine mais qui n'avait pas de quoi se nourrir.
Ouais.
Et est-ce que t'as fait d'autres rencontres au Niger?
Au Niger, j'ai fait des rencontres pas vraiment directement. C'est encore la cour des miracles dans le sens où c'est. Je voyais le peuple Touareg devenir mendiant, les femmes se prostituer et les hommes mendier. Donc je commençais à cette époque, on commençait à voir l'immigration des Touaregs vers la ville. Du coup, des sécheresses aussi. qui avait commencé à cette époque.
Qui migrait du désert vers Niamey.
Ouais. Et les Touaregs qui sont un peuple nomade.
Ouais, qui sont un peuple nomade.
Et là, ils se rapprochaient des villes dans l'idée de faire des sous et de repartir
Ils étaient coincés parce que avec la sécheresse, les animaux mouraient. Ou alors, ils étaient virés par l'État, par rapport aussi à la France qui garde une mainmise sur l'uranium là-bas, chez les Touaregs. Du coup, il y a une histoire de sécheresse, une histoire d'uranium. Et puis aussi, ils ne sont pas reconnus comme Nigériens. Enfin, les Nigériens les Touaregs ne sont pas reconnus, en fait. C'est un peuple nomade,
discriminé.
Comme les Gitans ici, ou d'autres. Donc, c'est le souvenir. Mais je suis pas resté assez longtemps pour puis parler pas français. Donc
t'es resté combien de temps dans ces pays-là qu'on vient d'évoquer globalement, qu'on se fasse une idée?
5-6 mois, c'était pas tellement long.
Ouais. Donc c'était 6 premiers mois où t'es parti. Ouais. C'était ta première expérience d'un ailleurs.
Voilà. Ouais.
Et c'était un peu dur, si je t'entends bien.
Oui, moi j'avais envie de trouver un boulot là-bas, de bosser, de vivre là-bas, ouais. Donc bon, c'était un peu une déception. Et donc je suis rentré en France, quoi.
Ok, mais t'avais pas encore eu ce déclic par rapport à l'autonomie alimentaire à travers le monde?
Non.
Ok, c'est le premier voyage en Afrique de l'Ouest.
Ouais. C'est-à-dire, en fait, vivre avec les... Bon, j'ai vécu avec Jérôme, effectivement, ça vit tous les jours. Mais par rapport à certaines zones dans le monde ou certains pays, enfin, plutôt c'est assez local, où des gens arrivent quand même encore à vivre... en produisant leurs aliments, quoi. Parce que c'est vrai que Jérôme, il était en pleine ville, à Niamey, au Niger, on peut pas cultiver, là, c'est rien, quoi. Donc faut vraiment se débrouiller si on n'a pas de boulot. Non, c'est après dans mon... Après, il y a eu un déclic dans ma tête où je me dis, mais comment tu pourrais, Franck, rencontrer des personnes parce que... vraiment rural, quoi, dans l'espace rural, et qui vivent sans argent, mais qui vivent de leurs produits, de leur échange,
qui vivent
bien sans argent. Voilà, c'est plus tard que j'ai eu cette démarche en allant en Mélanésie. Ouais.
Ok, bon, on écoute un deuxième son qui nous vient d'Afrique, j'imagine. Richard, si t'es chaud. Donc c'était un son pygmé, si je ne dis pas de bêtises, Franck.
Ouais, de Centrafrique, le pays qu'on appelle Centrafrique. Voilà, c'est
le bien nommé.
Où il y a des pygmées qui survivent malheureusement. Ils sont colonisés par les grands noirs, ostracisés par les grands noirs. C'est des petits noirs qui ne valent rien à côté d'eux. Il y a une forme d'esclavagisme aussi. Et c'est les Blancs qui n'ont pas arrangé ça aussi quand ils ont envahi ce pays. Et celui qui a enregistré cette musique, c'est un ethnomusicologue américain qui vit avec les Pygmées depuis 30 ans.
Que tu n'as pas rencontré?
Non.
Ok, ok.
Mais que
non,
je rencontre à travers.
Oui, tu as raison.
Cette musique, le voyage, ce travail. Et ils ont créé une radio d'ailleurs aussi là-bas, sur place, avec les Pygmées et tout. C'est génial.
Ok, donc si on suit un peu le fil de notre récit de voyage. Après ces 6 mois-là, tu décides de rentrer, plein des expériences, des émotions, des difficultés, des joies que tu as pu vivre pendant ces 6 mois-là. Et après, tu vas repartir plus vers la Papouasie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette suite, après le retour au pays et le premier voyage pour le Vanuatu, je crois?
Ben oui. Rentrant d'Afrique, se retrouvant ici, pour moi c'était un peu un échec. Je suis rentré en hiver, j'ai des copains qui m'ont accueilli, je me suis dit, merde, je me retrouve... Et quand je suis rentré en France, je me suis dit, c'est quoi ce monde de fou, cette Europe qui est complètement folle. Enfin, pourtant il y a de la folie en Afrique aussi, mais c'est pas la même.
De nouveau, tu t'es senti étranger?
Ouais.
Le même sentiment d'avant d'être parti?
Oui, le même sentiment en fait, okay. Exacerbé un peu plus. Donc une grande déception. Donc je me suis dit, je vivais en famille avec la mère de ma fille et ma fille, donc c'était 3. Et puis je me permettais, une fois par an, de partir un mois. Après on a été séparés, j'ai continué à voyager en Papouasie, donc c'est-à-dire au Vanuatu, en Mélanésie, parce que c'est pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est pas l'Irian Jaya, c'est entre la Nouvelle-Calédonie et enfin l'Australie, si vous voyez. Et puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est rattachée à l'Indonésie actuelle par l'Irian Jaya. Donc je me suis dit, je vais aller au plus loin possible, plus loin que j'ai été en Afrique. Je vais me perdre dans des îles. Et toujours dans le but d'émigrer, de vivre là-bas. Et le rêve de, comme beaucoup rêvent, de venir ici...
Toi, tu rêvais de partir.
Ouais, parce que ici, c'est vrai qu'il y a une guerre économique. On est né avec, on s'en rend pas compte, mais ça s'arrange pas en plus en ce moment. Mais déjà, moi, je me sentais pas bien ici en France. Et je sentais des amitiés. En Afrique, j'avais vécu des amitiés, donc je me dis, tiens, j'ai envie de rencontrer des amitiés et des expériences. Et je me suis dit, la seule manière c'est de rencontrer des ruraux. Et vraiment, la première fois que je suis atterri au Vanuatu, donc en Mélanésie, c'est un ancien condominium français, c'est une ancienne colonie française et anglaise, et qui est devenu indépendant en 1985, je crois, avec la période de Mitterrand, je crois, en 1982. Donc c'était intéressant, quoi, un pays nouvellement indépendant, relativement tard et tout, bon, qui reste sous la domination économique chinoise actuellement, mais... Et du coup, j'étais un peu dans la brousse, me perdre. Et c'est marrant parce que quand je suis arrivé, c'est eux qui m'ont pris en photo. Moi, de toute façon, je ne voyais jamais sans... J'ai jamais d'appareil photo, je n'aime pas voyager comme ça. Mais c'est eux qui m'ont... Dans une île complètement paumée, ils avaient un appareil photo. C'était le chef un peu de... Il essayait de monter une boîte pour accueillir des Blancs, mais d'une manière un peu alternative. Voilà,
des Blancs ou n'importe qui aurait de l'argent, enfin, je me permets, c'était ça?
Ouais, des Blancs qui payent. Alors moi, j'avais pas beaucoup d'argent, alors du coup, j'avais amené des trucs, du matériel.
C'est-à-dire?
Pour construire une pirogue.
Ok.
Parce que je suis menuisier à la base.
Ok.
Donc j'avais amené de quoi faire un chantier et construire des pirogues avec eux, en échange de leur accueil.
Ils avaient des pirogues?
Ouais, ils ont des catamarans, c'est les inventeurs des catamarans. Et c'est des pirogues catamarantes, elles sont toutes marrantes, enfin je veux dire c'est toutes légères, elles sont... et du coup j'avais envie de fabriquer ça avec eux, quoi, avoir ce lien là. Et bon, ça s'est pas vraiment. Il y avait beaucoup de traditionalisme. Ils voulaient pas dans une île. Il y avait qu'un homme Vanuatu, je sais plus son prénom, qui voulait monter un truc à touristes.
Et le chef dont tu viens de parler.
Non, c'était pas le chef. Ok, je me trompais. C'est quelqu'un d'autre. Mais et c'était pour certains, c'était voilà l'homme de l'avenir. Ils voulaient faire venir les touristes. Mais la plupart restaient hyper traditionnalistes. Non, ils ne voulaient pas du tout, quoi. Donc, il y avait une guerre entre...
Pas de nourriture de supermarché
Oui, effectivement. Ils ont tous leur jardin,
production,
leur maison.
Et de l'argent. Pas forcément.
Il n'y a pas de banque, là. Ils sont tellement paumés. Il n'y a pas de banque, là.
Ça donne une idée précise. Ouais.
Des fois, il y a des billets qui arrivent de la capitale, qui circulent. Mais
et avec une volonté d'aller, comme tu avais pu voir en Afrique, une volonté d'aller ailleurs ou...
De m'installer, ouais.
Non, de leur part.
Comment ?
Non, plutôt les traditionnalistes. On est bien ici, on a une tradition, on a une culture. Sauf un qui sort du lot, qui voulait gagner de l'argent, les autres profiter juste de l'existence. Quoi.
Il y avait ce tabou de gagner de l'argent. Et de faire venir des touristes, effectivement, et il y avait un gros dilemme.
Bon, il était mal tombé avec toi, apparemment.
Et du coup, il m'a accueilli, et moi j'étais le seul touriste à ce moment-là, je n'ai pas l'ambiance, entre guillemets. Donc j'ai senti ce truc-là, donc je me suis un peu... J'ai demandé à quelqu'un d'autre, à un autre voyage, parce que je suis reparti, je suis rentré.
Toujours au même endroit ?
Non, j'ai changé d'endroit.
Okay.
Et la deuxième fois, c'était assez intéressant, parce qu'il y avait... Je me suis dit, mais faut que je rencontre quelqu'un qui parle français et puis qui m'indique où trouver des paysans pour aller vraiment encore au plus loin de mon voyage et de pouvoir vivre avec eux. Et comme je n'avais pas beaucoup d'argent, de travailler avec eux, d'échanger, comme un peu on ferait du woofing actuellement. Oui. Quoi. Et j'en ai trouvé un. Et c'est marrant, alors lui, il a une histoire pas possible avec sa femme. Il s'appelle Rock. Et c'est une grande amitié comme avec Jérôme. J'ai jamais rencontré des amitiés pareilles en Occident, quoi.
Ok.
Entre copains et tout. Et...
Ça t'a réconcilié un peu avec l'humanité. Depuis l'enfance, tu te sentais étranger à toi-même et au monde des grands. Et là, t'as des amitiés fortes qui se créent à des moments
ailleurs,
du voyage.
Dans des ailleurs.
Ouais. Et un ici finalement, puisque la terre est ronde.
Un ici de là-bas.
Un ici de là-bas.
Il faut aller au bout du monde pour et aux Comores aussi, à Mayotte aussi. Hein, c'est passé des grandes amitiés aussi avec un pote.
Mais Rock, revenons à Rock alors.
Alors revenons à Rock. Et alors lui, il y a une histoire incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont tous du terrain, très ruraux, et lui il décide de faire des études. Ses parents sont paysans. Bon, comme nous, un peu, il y a pas tellement longtemps. Il y en a qu'ils allaient à l'école, quelques-uns, et lui va à l'école. Donc il va à la capitale. C'est sa tribu. Lui envoie par pirogue à manger à la capitale, parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter la bouffe des blancs ou la bouffe des riches à la capitale. Donc il arrive à devenir instituteur, et puis changement de gouvernement, au bout de quelques années, les enfants étaient habitués au frigo, ouvrir le frigo, manger du chocolat, des yaourts. Changement de gouvernement, il se fait virer comme instituteur, il n'est plus instituteur. Comme en certains pays d'Afrique d'ailleurs, quand il y a des changements. Donc il se retrouve sans rien, et heureusement les parents avaient gardé la ferme. La plupart, la terre, c'est encore plus important qu'ici, quoi. Enfin, dire, c'est vraiment un culte, c'est la mère, c'est la nourricière, comme chez les Indiens. Et il s'est passé quelque chose, ses enfants ont fait la gueule, disant, mais c'est de retourner à la terre, d'aller travailler, c'est-à-dire, va travailler avec moi dans le champ pour avoir ton petit déjeuner, ce merveilleux pamplemousse que j'ai bouffé tous les matins là-bas. C'est très goûteux, très... Et du coup, à un moment donné, avec sa femme, ils me regardent, on discutait un soir, ils me disent « Moi, j'étais instit, et maintenant, je suis paysan, et du coup, je suis maître chez moi. » C'est-à-dire que ce n'était pas une révolution intellectuelle qu'ils faisaient. C'était une révolution individuelle, dans le sens où intime. Avec, c'était pas un retour à la terre, comme en mai 68 chez nous, ou actuellement encore, d'autonomie alimentaire. C'était pas une réflexion intellectuel. Enfin, maintenant, ça devient une réflexion de survie chez nous. Ça commence de plus en plus. Mais chez lui, il y a 20 ans, c'était pas une honte de plus être instituteur et de reconnaître. Bon, il avait étudié un petit peu, comme moi, il avait lu des bouquins de philo, machin. Mais d'ailleurs, c'était intéressant notre dialogue à ce niveau-là. Et à d'autres niveaux, il dit, ouais, on est maître. Avec sa femme, un jour, ils m'ont dit, on est maître chez nous. C'est-à-dire qu'on
on dépend pas de quelqu'un d'autre.
On dépend pas de quelqu'un d'autre. On travaille nos champs et on mange avec ça. Et puis point barre. Et alors on fait un peu de noix de coco. Ça nous fait un peu de monnaie pour payer l'école, parce que là-bas l'école n'est pas gratuite.
Mais il y a quand même des... ils n'étaient pas en autonomie complète. Alors, en fait. Il y avait quand même un peu d'argent.
Alors en tribu, on est 30, 40, il y a toute la tribu qui va dans les champs. Des anciennes cocoteries qu'avaient les Blancs, donc ils les ont récupérées. Et avec ça, ils arrivent à vendre aux Chinois, qui les exploitent. Et ça leur fait un peu de monnaie, et du coup, ça paye l'école des enfants, tu vois. À un moment donné, moi, ils m'ont demandé d'être un stit, et dépanner un copain, parce que là-bas, quelqu'un qui meurt, c'est 15 jours enfermé dans une maison, avec toute la tribu. Il faut que nous, de l'extérieur, on leur amène à manger. Donc il y a des traditions assez...
Là, tu étais intégré pleinement. Là, tu faisais partie de la tribu. Tu étais l'ami de Rock et de sa femme. Et...
Oui, parce que philosophiquement et même moralement ou idéologiquement, mais même viscéralement, moi, je suis anarchiste à la base. Si je peux dire libertaire, enfin, je sais pas, mais... c'est-à-dire que l'autonomie, pour moi, c'est important, le fédéralisme, le communalisme, etc. Et du coup, je rencontre un gars au bout du monde qui me dit « je suis maître chez moi ». Et il aurait pu mettre... décolonialisé, je ne sais pas, si on peut dire, de son propre état,
l'école,
de sa propre nation.
L'école, la partie coloniale de son histoire.
Oui, voilà, ouais. Exact.
Ouais, c'est vrai, c'est l'argent et c'est le et lien, c'est le travail. Ouais,
Et qui me disent, ouais, on est maître chez nous. Et il me dit, mais maintenant, on ne va pas envoyer tous nos enfants à l'école. On va en garder à la maison pour faire perdurer cette économie de subsistance.
Et la subsistance, justement, au niveau des... Toi, tu as parlé de l'ananas et de la noix de coco, c'est ça?
C'était la noix de coco.
La noix de coco,
ouais. Le pamplemousse et la noix de coco, non?
Ah oui.
Ah, le pamplemousse, oui. Mais la noix de coco, c'était pour vendre aux Chinois, pour payer l'école des enfants. Tu vois.
Traditionnellement, ça a toujours été ça, quoi.
La noix de coco, bah, c'est les colons ils ont récupéré, comme je disais tout à l'heure, les cocotiers, tu vois. Et du coup, des Blancs qu'il y avait avant, ils cultivent. Ça leur fait un peu d'argent. C'est le seul, rapport au marché extérieur qu'ils ont, quoi. Mais autrement, ils vivent sans carte bancaire. Enfin, je veux dire, demain, il y a un problème. Ils auront toujours à manger. Parce qu'ils ont une faculté, en plus, de faire plusieurs jardins, à droite, à gauche, à certains niveaux. Il y a des mangues toute l'année, par exemple, parce qu'il y en a au nord, au sud. Ils peuvent, s'il y a un jardin, s'il y a une tempête ou un ouragan, parce que dans ce pays-là, il y en a pas mal. Donc, si un jardin se fait détruire, ils en ont un autre ailleurs. Enfin, c'est une stratégie de survie. Ils sont au niveau des semences, de la végétation, ils sont indépendants, ils dépendent pas d'un marchand pour acheter leurs semences ou leurs plants.
C'est la même chose que ce que tu racontais avec ton papa qui a vécu l'augmentation de la taille des fermes en France, que eux ils avaient cette possibilité là d'être résilients par la petite surface des jardins.
Ouais, comme en Russie aussi, l'espace ça n'a rien à voir, mais c'était vachement important que chacun ait un jardin, quoi. Enfin, il y a des notions comme ça qui disparaissent pas.
Combien c'est de tribus de 40 personnes à peu près sur cette île-là, tu vois à peu près ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu dis on est dans une tribu de 40 personnes, combien il y a de communautés comme celle-ci qui peuvent vivre autour de vous? Vous êtes un cas unique ou il y a d'autres tribus de la même taille?
Ah ouais, il y en a d'autres, il y en a plein.
Ok.
Ouais. Il y a des connexions avec... puis il y a des tribus un peu plus importantes. Bon, ils sont assez égalitaristes, mais bon, quand même, il y a des tribus un peu plus de pouvoir, même, qui ont un des leurs qui est député, par exemple, qui vit à la capitale.
Ils ont droit... Enfin, je dis ça parce que tout à l'heure, j'étais en voiture avec quelqu'un et je lui dis, je vais faire l'émission et tout, on va parler de Papouasie. Il me dit que les Papous, ils n'ont pas d'acte officiel qui dit cette terre est à moi.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Donc il me dit les Indonésiens à l'heure actuelle.
Ouais. En Irian Jaya, ouais. Mais ils font pareil au Vanuatu. Ouais.
Et c'était le cas à l'époque, c'est-à-dire que eux ils disent là j'ai le droit d'être chez moi, j'ai le papier, et vous n'avez pas le droit.
Ouais.
Et ils chassent les Papous.
Ouais.
Ok.
Et effectivement, je l'ai vécu parce que il y a des même des Français qui arrivent, des spéculateurs. et qui disent qui font pression, qui sont juristes et qui veulent les virer parce qu'ils n'ont pas de papier.
Il y a une ONG qui les soutient
pour prouver que la terre leur appartient.
Ok.
Et là, quand j'y étais, ça devenait assez nouveau, quoi. Tu vois, c'était. Elle me disait, mais qu'est-ce que c'est ? Je dis, mais fédérez-vous et payez-vous un juriste, un avocat, pour faire contre-pouvoir. Comme à Mayotte, d'ailleurs, aussi, avec des bijoutiers qui commençaient à se faire bouffer par les grosses surfaces de bijouterie indienne.
Ce moment-là, tu es en contact avec ton père à distance parce que c'est des thématiques du coup, qui l'ont porté, lui, dans son milieu professionnel, quand vous êtes notamment arrivé en Drôme, d'aider les petits à se fédérer contre les gros. Du coup, toi qui le vis dans un ailleurs, t'es en contact avec lui ou...
Non, moi j'ai rompu avec mon père depuis longtemps. Hors sujet, ouais. Du coup, c'est comme le cordonnier mal chaussé.
T'as gardé la thématique, mais à ta manière.
Oui, voilà, j'ai gardé ce truc-là. Mais en fait, je pense qu'il y a un effet familial sur ce parcours, mais il y a aussi un effet de conscience personnelle. J'ai mis du temps à réaliser en quoi la plante... On vit dans le règne de la plante. On ne peut pas se séparer de la terre et de la plante. On en vient, que ce soit on est des animaux. On ne vit pas dans le règne des hommes, on vit dans le règne de la plante. C'est elle qui nous fait vivre. Et du coup, c'est une démarche, profondément... moi, j'ai réalisé ça, que la plante, pour moi, c'est la reine, quoi. Enfin, c'est comme... C'est la,
ça, tu l'as c'est réalisé la là-bas la vie, quoi.
Oui, parce que entre-temps, j'ai monté une ferme. Et pour subvenir à mes besoins, c'était la démarche aussi.
Tu montais une ferme en Europe et tu faisais des allers-retours avec le Vanuatu.
Non, après la ferme, en fait.
Ok, d'accord.
Et c'était dans le but aussi de devenir autonome. En partie, et puis un peu vendre un peu pour me faire un peu de monnaie.
Donc là, tu savais que tu n'allais pas t'installer dans le Pacifique parce que tu avais aussi cette terre d'attache à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas quand tu es parti la première fois.
Quand je suis parti la première fois, ouais, j'avais pas été maraîcher. Et puis dans les derniers voyages, j'ai arrêté d'être maraîcher puisque les terres ont été revendues. Donc,
qu'est-ce que tu cultivais
ici?
Ouais.
Des légumes.
Ok, maraîcher. Je cours un peu après le temps, c'est mon rôle aussi dans l'émission. On écoute un petit son qui nous arrive de Papouasie, et puis après on continue notre passionnant voyage.
Thank you.
Ok, donc voilà pour ce petit son de Papouasie. donc voilà, on ne peut pas vous en dire trop, puisque quand on enregistre, on ne l'a pas encore, mais on le fera au montage. Bref, petit point technique. Donc là, on est en Papouasie, et tu es en train de nous dire que avant de faire ton premier voyage pour le Vanuatu, tu as monté une ferme, je crois que c'est en Ardèche d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est ça ?
Non,
Drôme. Ah non, c'est en Drôme, ok, autant pour moi. Où tu es maraîcher. Donc ça, c'était pareil sur le bassin crétois ?
À Eure, ouais.
C'est à Eure, ok, ouais. D'accord. Donc, tu es né dans l'Eure, là, tu travailles à Eure et tu es toujours de bonne heure. Ok, et du coup, tu pars au Vanuatu plusieurs fois, un mois, je crois que c'est cinq fois.
Cinq fois au Vanuatu, ouais, pendant
tu tisses une amitié avec notamment une tribu et Rock et sa femme particulièrement. Ouais, et c'est là que tu reviens à chaque fois.
Avec des paysans, ouais.
Ok. Et donc là, tu as déjà ce statut d'alter ego professionnel, quoi. Tu es paysan toi-même à Eure.
Ouais, d'ailleurs, ils ne savaient même pas, parce que là où j'étais dans des coins paumés, ils ne voyaient pas de blanc. Il n'y a que des Japonais une fois par an qui passent en touriste. Mais ils me disent, mais toi, comment ça se fait que tu es paysan comme nous ? D'habitude, on voit des doctorants, des profs, ou je ne sais pas. Et c'est la première fois qu'ils voyaient un travers de la terre comme moi, quoi. Ça m'a fait marrer, quoi. C'était marrant.
Ouais.
Ouais, c'était très marrant. Et du coup, ben voilà, il y avait du lien qui se crée, quoi. Surtout dans cette autonomie, quoi. Et parce que le but de... Effectivement, c'est... moi, je sais, j'ai squatté des terres ici aussi, chez moi. Enfin,
et c'est quand je t'ai rencontré il y a 10 ans,
j'ai squatté des terres avant d'en trouver. Donc, c'est vrai qu'effectivement... après, aller dans des pays où il n'y a pas de propriété privée, c'était intéressant aussi, moi, de faire cette démarche. Où aussi la terre est un droit d'usage, mais pas une propriété.
Mais t'as encore foi dans leur combat ? Enfin, moi, je connais pas l'actualité. Tout à l'heure, on en a parlé. Je crois qu'il y a une ONG qui fait du super travail pour aider les Papous. Comme on a pu voir, vous connaissez sûrement l'exemple des Kogi, qui étaient pareils, des gens qui n'avaient pas de certificat pour dire c'est chez eux, mais qui, grâce à un dromois qui faisait des randonnées là-bas, les a aidés à être officiellement respecté en tant que propriétaire terrien. Et donc là, tu connais un peu l'actualité dans les îles, au Vanuatu, etc. Apparemment, ça fonctionne, mais t'en sais plus, toi ?
Ben, oui, maintenant, ils louent, ils ont des papiers, ils louent leur terrain, mais ils ne vont pas le vendre.
Sarah, tu fais la moue, qu'est-ce qui se passe ?
Ça, c'est le message, pardon, c'est un peu passé, ouais.
Non, bah, je fais la moue, c'est sur l'aspect de l'évolution, quoi. C'est-à-dire que d'avoir des papiers, ça permet de se prémunir contre des spéculateurs ou contre des... Mais en même temps, c'était chouette aussi, en fait, que la terre n'appartient pas à quelqu'un et de ne pas être propriétaire.
C'est le paradis perdu.
Ouais, c'est un paradoxe.
Paradis.
C'est assaillant, je ne sais pas si tu es allé à l'émission assaillant, pas l'émission, à la réunion assaillant.
Samedi, là.
Sur l'autonomie et tout. Et effectivement, nous, en tant que Français ou Gaulois à l'époque, pour s'affranchir des Romains, pour sortir de l'esclavagisme des Romains, on a récupéré des petits bouts de jardin, parce qu'on devait bosser pour eux, dans des grandes fermes énormes. Et du coup, petit à petit, à un moment donné, on s'est affranchi. Ils nous ont donné notre liberté à un moment donné. Et puis on a pu cultiver pour nous et que pour nous. Et du coup, on a eu un titre de propriété. Et quelque part, effectivement, c'est par défaut. Moi, je préfère le droit d'usage, effectivement.
Tu as participé aux luttes avec tes copains du Vanuatu ? Il y avait un rapport de force.
Il n'y avait pas encore. Non, c'est moi. Je leur disais juste ne vendez pas. Fédérez-vous et faites attention et trouvez un avocat pour vous défendre, parce que si vous n'avez pas des papiers, je leur expliquais bien. Ouais.
Ils vont tout vous piquer.
Ils vont tout vous piquer.
Alors, si on doit partir du Pacifique et se diriger pour le temps qui nous reste vers l'Amazonie, qu'est-ce qu'on peut dire pour la transition, Franck ?
Eh ben, toujours un peu la même démarche. Trouvant pas de terre ici, en France, ça devient super cher. Les fermages, c'est pas évident à trouver un fermage aussi pour travailler la terre. Et pour avoir une économie de subsistance, un minimum d'économie de subsistance sur lequel je puis compter. Être maître chez moi, comme disait Rock, un maximum. Donc du coup, j'étais déjà allé en Guyane, mais pas si profondément. c'était juste en touriste à l'époque. Et là, chercher du terrain, effectivement, j'étais dans un collectif, c'est des Français qui ont monté un collectif.
Comment il s'appelle ?
Je ne sais plus, mais okay. C'est... parce que je suis allé encore plus loin, vers le Brésil, à Saul, mais la politique, c'est un peu comme au plateau du Vercors, les paysans, ça les intéresse de moins en moins, ils veulent faire du tourisme, ils veulent gagner du fric avec les touristes. Donc du coup, c'était vachement difficile de trouver des terres. Voilà.
Ça, c'est au Brésil ?
Non, ouais, en Guyane.
En Guyane. Guyane française.
Ouais, Guyane française. Ouais. Et puis bon, alors là, c'est assez spécial. C'est qu'il y a aussi une forme de... Les blancs sont d'un côté, là. Les noirs sont... Ça me faisait bizarre, parce que moi qui venais... Je suis passé chez les Papous ou en Afrique, où j'étais souvent... le seul blanc parmi les noirs, et donc ça passait bien, quoi.
T'étais accueilli voilà. Pour qui tu étais.
Ici, il y en a qui souffrent énormément de racisme. Chez nous, c'est assez surprenant, quoi. Enfin, mais là-bas, ouais, le monde des blancs et des noirs en Guyane, et pourtant c'est en Guyane française, et le Brésil, enfin il y a des Brésiliens, des immigrés, il y a beaucoup d'immigrés, de réfugiés du Suriname à côté, parce qu'il y a eu un dictateur à côté, Et le Brésil, c'est très pauvre, donc ils viennent en Guyane. Mais on se mélange pas, quoi. Tu vois, c'est vraiment. C'est... Pourtant, ça pourrait être un fief un peu comme la Réunion, quoi. Tu vois.
Alors, dis-nous un petit peu déjà quand tu y es allé et pour combien de temps. Et c'était dans une démarche, du coup, de créer un projet agricole. Hein.
Ouais, ouais.
C'est ça.
Ouais, ouais. Et de plusieurs projets agricoles, d'ailleurs. Tu vois, okay. Carrément un village, parce qu'il y a aucune économie. Agricole en fait à Saul, ils font tout importer de la capitale de Guyane et du coup ouais en plus tu te dis mais c'est dingue, il y a des milliers d'hectares ici en France, il y a plein de jeunes qui essayent de s'installer parce que le monde va peut-être pas s'arranger, faudra les terrains marchés vont pas forcément importer tout le temps de la nourriture, on va pas tout le temps dépendre des intrants à tous les niveaux, mais du coup il y a des superficies énormes quoi là-bas en Guyane française. Alors, qui sont pas utilisées pour cultiver, et il y a pas cette dynamique de un peu comme il y a un peu en France actuellement où voilà d'autonomisation alimentaire et de réseau, etc.
Parce que les terres sont productives hein, potentiellement.
Ben c'est à dire que elles sont, faut pas croire qu'elles soient beaucoup plus riches qu'ici hein, les terres. Il y a certaines terres d'Amazonie qui sont plus riches parce qu'il y a des Indiens qui ont cultivé depuis très très longtemps. Elles sont noires, il y a leurs déchets, il y a des coquillages, on appelle ça la terra.
Oui, l'humus en forêt amazonienne, ouais. En fait, il est très peu profond.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et puis l'eau elle lessive tout. Ouais. C'est pour ça qu'en Papouasie, ils font carrément des bassines, par exemple, pour retenir les sels minéraux. Et ils plantent leurs plants dans cette sorte de bassine qui creuse dans la paroi, qui descend pour éviter le ruissellement de l'eau et des sels minéraux pour garder hein, ça. Et en Guyane, c'est ça le problème, c'est que ça, l'eau, quand elle arrive, c'est comme une rivière quoi, qui passe. Et il y a quelques... Alors, ils avaient des anciennes traditions, ils cultivaient par botte. Enfin, par motte, on dit. Ça faisait une sorte de motte d'un mètre de circonférence. Et pour éviter que leurs plants soient noyés, quand la pluie arrive, elle lessive tout, quoi. Donc, des chercheurs ont vu ces moyens de cultiver. Plein de petits ronds partout, comme ça, là.
Des chercheurs occidentaux
ou... Ouais, des chercheurs qui se disaient, mais pourquoi c'est comme ça, ils cultivaient comme ça avant, pour survivre. Et du coup, il y avait un peu d'humus qui restait au sein de ces mottes.
C'est retenu au pied de la motte par des pierres ou quelque chose
ouais,
comme
ça. Ouais, il y a des racines donc qui les retiennent elles sont un peu. Puis il y en a un peu au-dessus, tu vois. Et du coup, ça arrive à faire une sorte de comme en permaculture, ils parlent par exemple de faire des buttes, tu vois. Et du coup, ça faisait eux, ils faisaient des buttes en rond, quoi.
Alors du coup, tu y vas pour monter un projet agricole. Donc si je comprends bien. Avec des gens de la même couleur de peau que toi.
Ouais.
Mais de par le fait de la séparation entre les gens, du contexte environnemental qui n'est pas évident finalement. On peut se faire une idée comme quoi c'est les tropiques, c'est plus facile de cultiver. En fait, pas tellement. Et aussi de par le fait que les gens sont assez dépendants d'un système de production et de consommation et pas tant d'autoproduction. Mmh. Vous avez tenté cette expérience, mais ça n'a pas fonctionné.
Le collectif, il existe encore, hein, parce que moi, quand je suis arrivé, il voulait le passer à d'autres mains. Mais le problème, c'est l'eau. Parce que quand on est en pleine Amazonie, il n'y a pas de robinet. Bon, il n'y a pas forcément de rivière, il n'y a pas forcément de ruisseau partout. Donc, c'est avec l'eau du toit qui survit. Donc pour arroser les bananes, enfin normalement il y a beaucoup de plantes qui vivent qu'avec l'eau du ciel, enfin comme on dit avec l'eau pluviale, mmh. et non irriguée quoi. Mais là quand même là avec la sécheresse et tout, faut bosser beaucoup pour manger et en avoir un peu pour vendre sur le marché.
Donc ça expliquerait pourquoi ils sont dépendants finalement. Alors c'est parce que c'est pas si évident les conditions de culture en Guyane, Suriname, tout ça. Mmh. Mais là, ce collectif, il était déjà implanté sur place. Il connaissait ou c'était des métropolitains qui débarquaient.
C'est des métropolitains qui ont débarqué il y a 10 ans et qui ont eu l'autorisation de.
Oui, voilà,
de et au bout d'un certain nombre d'années, les terres t'appartiennent.
Ok, donc ils sont encore en place, t'as des nouvelles de temps en temps?
Non.
Ok, mais oui, ils sont encore en place.
Je pense que ouais, ou alors ils ont passé la main à d'autres, tu vois, et puis ils vont repasser. Ils ont envie de voyager, de continuer, de revenir ici.
Ok, c'est des voyageurs.
Mais ils vont laisser la place à d'autres. Et,
Finalement, les gens qui arrivaient, tu dis les métropolitains, ils étaient plus là pour apporter la volonté, que les savoir-faire étaient, c'était vraiment des savoir-faire ancestraux, t'as dit ça tout à l'heure.
Mais ils n'ont pas le savoir-faire. Parce qu'ils ne vivent pas avec les Amazoniens.
Ah, c'est les Amazoniens qui, eux, sont cultivateurs.
Et encore, ils l'ont perdu un peu, tu vois. Aussi,
il y a une perte.
Oui, parce que cette découverte, elle date de, on voit que ça date de plusieurs centaines d'années, tu vois.
Donc c'est
dans certains champs. Ouais.
Et les Amazoniens, pardon.
Même les Amazoniens, encore, avec la colonisation, tout ça, ils ont été déportés. Enfin, les Indiens, ils ont été importés ici. Donc, ils ont... mais il y a eu beaucoup de mouvements, quoi. Et du coup, même les Guyanais ont dû réapprendre un peu ce savoir-faire aussi. Hein. Mais ils l'ont commencé depuis plus longtemps que des métropolitains qui essayent depuis 10 ans, quoi. Mais ils se mélangent pas trop, en fait. Hein.
Ouais, ouais. Et est-ce qu'eux, ils étaient fiers du rendu des cultures?
Non, enfin, dans le collectif de paysans, là, c'est la dèche, hein, donc, c'est la survie, hein, ça pousse pas bien. Enfin, on manque de savoir-faire aussi. Et d'ailleurs, la Guyane manque tellement de savoir-faire qu'ils importent principalement leur nourriture d'à côté du pays en dessous, là, soit du Suriname en riz, beaucoup, énormément.
Brésil, c'est un gros producteur.
Et du Brésil et tout, tu vois. Donc, ils sont vraiment pas du tout autonomes. Et il n'y a aucune politique de développement agricole sérieuse. La France, elle ne fait rien pour ça, en fait.
Ok. Je me rappelle, dans la préparation, oui, tu avais parlé d'assistanat par rapport au fait que, du coup, il y a un système peut-être néocolonialiste, finalement, où, en fait, c'est les dividendes de l'État français, mais du coup, qui ne motive pas forcément les locaux à avoir une politique de terrain d'autonomie alimentaire. Moi, je suis assez intéressé, petite question, on ne va pas tarder à conclure sur l'ensemble de ces voyages-là, mais peut-être on a d'autres questions. Moi, j'en ai une, c'est par rapport, tu parlais des Amazoniens, qui eux sont donc ceux qui ont ce trésor de savoir-faire sur l'agriculture locale en Amazonie.
Qui avaient.
Ok, toi, tu as été en contact un petit peu avec des gens qui ont cette culture-là et ce savoir-là?
Je n'y suis pas arrivé.
Ok, pareil.
Ouais.
C'est difficile.
C'est assez long.
J'enchaîne un peu sur la conclusion.
Ça peut être assez long à des moments.
C'est difficile, finalement, de tisser comme ça des liens. Toi, tu sais ce que tu vas chercher. Tu veux trouver des personnes qui ont une autonomie alimentaire. Mais trouver les bonnes personnes...
Oui.
Il y a une espèce comme ça de difficulté, en fait, parce que les temps sont durs. Hein. Je fais un peu une grosse généralité. Mais que ça soit à n'importe quel méridien où tu es allé... Finalement, il y avait comme ça des vraies difficultés de survie, des conditions sociales difficiles de par les colonisations passées. Et même si tu sais ce que tu vas chercher, c'est pas évident. Et alors, pardon, oui, je te laisse parler.
C'est toujours là, le communiquer avec l'étranger. Je suis un étranger, l'autre est un étranger. Voilà, par où on commence. Par exemple, tu vois, moi, chez les Kanaks, en Nouvelle-Calédonie, je suis affilié à une tribu. Je peux y aller comme... C'était ma famille, comme au Vanuatu. Si j'y retourne, c'est ma famille. Voilà, des fois, tant que t'es pas marié, tu peux pas aller dans les jardins. Il y a des rituels aussi, parce que je suis...
Et voilà. Oui, d'accord,
il y a des empêchements, il y a aussi, tu vois. Et puis, il faut du temps. Il y a une cérémonie pour petit à petit rentrer dans la tribu, etc.
Si je comprends ton parcours, Florent, c'est au Vanuatu que tu t'es senti le plus proche de ce que tu cherchais en termes d'amitié, de pastoralisme, etc.
Ouais, c'est vrai que c'est ce couple, la Roque et sa femme, c'est un idéal. Ouais. Enfin, c'est vraiment... ça rejoint un peu ces deux mondes étrangers entre moi ici et eux là-bas. Du coup, ce point de convergence qui dit on veut être maître chez nous, quoi. Et cultiver chez nous et consommer chez nous. Voilà, localement, quoi. On en vient, c'est un problème récurrent actuellement, puisque avec le Covid, on a connu ça. Malheureusement, il a fallu comme des fois comme les gosses se brûlent pour qu'ils comprennent que le local c'est vital quoi. Et les plantes, le règne des végétales, nous on devrait le respecter comme des rois ou des reines. Moi je suis royaliste dans ça. C'est des rois et des reines les plantes. Bon, elles se bataillent entre elles aussi. Hein. C'est pas toujours tout rose. Hein.
Ça me paraît une très bonne conclusion.
Eh bien, Franck, tu veux dire le mot de la fin, puis après on écoute peut-être un petit son qui nous arrive de Guyane française, ou d'où tu nous diras.
Ok, je vous remercie pour votre présence avec moi, et puis aussi votre écoute, l'écoute des auditeurs, s'ils sont pas trop endormis.
Ils sont remontés, là. S'ils te rencontrent, je pense qu'ils vont te proposer peut-être de l'action localement, ou peut-être ailleurs, sur... qu'est-ce qu'on peut faire pour cultiver alors on dit ni Dieu ni maître en anarchie, là c'est être maître chez soi, ça veut tout simplement dire se sentir responsable de son existence quoi, et c'est une manière d'être au monde du coup qui enracine comme on dit un peu plus, et qui les pieds bien enracinés et la tête dans les étoiles un peu quoi.
Ouais voilà, se donner en droit dans son champ, ouais.
Richard.
Se tenir droit dans son champ, c'est chouette.
okay, merci à tous.
Merci à tous.
Et bientôt, je crois que la prochaine émission... Non, on ne sait pas encore. Voilà.
Ça sera la surprise.
On verra, surprise. À bientôt.
Fuck off.